n'est pas seulement contemplative, mais aussi pratique. Spéculative, ça veut dire contemplatif, hein, n'est pas seulement spéculative, donc n'est pas seulement contemplative, mais aussi pratique. Parce qu'elle regarde tout dans la lumière de Dieu. Et elle peut juger de tout dans la lumière de Dieu. Oui. Donc, mais elle est premièrement contemplative. C'est un regard intime vers Dieu pour contempler Dieu comme il se contemple. À partir de là, nous comprenons facilement les objections. Oui, oui. Par code naturalité expérimentale, ça revient au même. Hein. Connaissance expérimentale ou connaissance par code naturalité, c'est la même chose. C'est un jugement par code naturalité, c'est un jugement affectif. Donc il est expérimental, vous voyez. Parce qu'il est concret.
Là, tu me vois, ta diligence et l'amour ne sont pas liés.
Ils sont liés en Dieu, ils ne sont pas liés dans notre exercice même. Parce que la grâce le supprime. Vous voyez. La grâce nous fait vivre divinement, mais ne supprime pas notre nature. Or, de fait, selon notre nature humaine, comme créature, et c'est le propre de la créature, parce que c'est même pour les anges, c'est comme ça, il y a une distinction entre la volonté et l'intelligence. Et donc cette distinction demeure toujours. Mais dans l'exercice, c'est uni. Dans l'exercice, c'est uni. Mais c'est toujours une distinction des deux. Je ne peux pas dire donc le don de sagesse est aussi bien intellectuel que l'amour. Non, non, non. Il y a le don de sagesse. Le don de sagesse qui me permet de vivre à la manière de Dieu, à la manière contemplative de Dieu. Le don de sagesse est premièrement affectif. Et dans cette affectivité, il y a la lumière. Vous voyez ? Donc il y a les deux. Et dans l'exercice, les deux sont intimement liés, puisque l'amour est ce qui détermine mon intelligence, transformée par le habitus de sagesse. Oui. Il faut maintenir les deux. Dans l'exercice vital, alors, nous avons un exemple, simplement l'amour affectif. Quand on aime quelqu'un, on a une connaissance affective vis-à-vis de lui. Et cette connaissance affective que nous avons de lui, nous savons très bien que c'est à la fois l'intelligence et l'amour. C'est les deux, dans l'exercice même. Vous voyez ? Donc c'est déjà vrai au niveau humain. C'est pas ça. Vous voyez, au niveau humain, nous avons une connaissance affective. La connaissance de l'ami à l'égard de son ami. La connaissance de l'épouse pour l'époux. Et la connaissance de l'époux pour l'épouse. Oui. Et là, vous voyez tout de suite si quelqu'un aime l'autre en fonction de son jugement. Quand nous avons cette connaissance affective, nous ne pouvons plus supporter le jugement. Voyez, un peu glacial, un peu métallique du psychologue. On dit, ah ça c'est psychologique. C'est-à-dire que c'est à côté. C'est pas de l'intérieur. Quand on aime quelqu'un, voyez, parce que le jugement, alors c'est la fameuse chose aujourd'hui en disant, le psychologue sera objectif. Oui, quelle objectivité. Parce que aimer une personne... On est parfaitement objectif dans une personne que quand on l'aime. Parce qu'alors on la juge de l'intérieur. Tandis que quand on la juge de l'extérieur, on ne regarde que son comportement. Oui. Ça, c'est toute la question de savoir comment on regarde quelqu'un. Est-ce qu'on le regarde de l'extérieur ou de l'intérieur ? Un ami regarde de l'intérieur et ça interdit de regarder de l'extérieur. Il peut le savoir. Il dit, je sais très bien. Je sais très bien que si on regarde ça de l'extérieur, on verra ça. Mais moi, je connais de l'intérieur. Oui. C'est vrai qu'il y aura toujours les deux. Et où est la véritable objectivité ? Alors ça, c'est là la question. La véritable objectivité, quand il s'agit d'une personne, c'est une connaissance affective. Quand il s'agit d'une chose et d'une vache, c'est une connaissance objective. Et alors la connaissance scientifique de savoir la qualité de la viande de la vache. Je vois, ça c'est une connaissance objective. Parce que ce n'est pas l'amour. Oui.
Pourquoi est-ce que ce n'est pas la béatitude des cœurs purs qui convient mieux au don de sagesse, puisque il y a l'enracinement, justement, l'aspect affectif et l'aspect de lumière.
Oui, c'est sûr. Ça l'implique. Mais il y a quelque chose de plus. Et dans la béatitude des pacifiques, il y a quelque chose de plus que la béatitude des cœurs purs. y a tout ce rayonnement, oui, de la contemplation. Faiseur de paix et pacifié en soi. Oui. Alors, évidemment, le point de vue du don d'intelligence, on comprend très bien, donne cette intention, vous voyez, cette pureté d'intention de béatitude et cœur pur. Mais ça se tient, hein. Don d'intelligence et don de sagesse et don d'intelligence sont les deux dons de notre vie contemplative. Donc, ils s'impliquent constamment ensemble. Mais il y a quelque chose, on voit très bien ce que disait tout à l'heure saint Thomas à propos du don d'intelligence. Et, voyez, faut toujours la même chose, hein, il faut faire attention. Le don d'intelligence implique aussi un jugement. Et on prend l'analogie de l'appréhension, de la saisie, c'est l'analogie qu'on fait là. Parce que le don d'intelligence implique aussi un jugement. Et là, simplement, la saisie de l'appréhension. Alors, il faut le comprendre, c'est un des aspects. Quand je compare le don d'intelligence et le don de sagesse, je donnerai ce point de vue-là, c'est que je dirais le point de vue de la sagesse a ce point de vue de goûter les choses, de les ordonner. Et c'est quelque chose de plus. C'est quelque chose d'ultime. Oui. Mais c'est sûr que le don de sagesse implique le don d'intelligence. Ça, c'est sûr. Impossible de vivre la béatitude des pacifiques sans avoir la pureté du cœur. Pas.
Je me pose encore, étant donné que c'est le don de sagesse dans l'intelligence, c'est ce qui marque la mission divine du Père. Vous ne pouvez pas expliquer parce que c'est dans l'intelligence, et à ce moment-là, c'est parce que c'est aussi par connaturalité, par ce sacré.
Oui, et alors
pourquoi c'est la mission divine du Père?
Ah, à cause de la sagesse qui est assimilée au Verbe. Oui, c'est la sagesse. Le verbe, c'est l'intelligence et l'amour. C'est la lumière et l'amour. Vous voyez, c'est les deux. Alors c'est pour ça que c'est les deux. Et que tant que je suis ici sur terre, l'amour ne peut mettre... La lumière ne peut être donnée parfaitement que par l'amour. Mais c'est quand même la lumière. Donc la sagesse est assimilée à la mission du verbe. Oui.
Alors que pour l'Esprit Saint, c'est la charité.
C'est la charité. C'est la source. C'est la source.
Parce que là, et quand on parle
de
sagesse, on parle du
Saint-Esprit. C'est sûr, ça se tient, ça dépend sur quel aspect. Tout simplement, les analogies. C'est les analogies diverses ou les aspects différents. Le don de sagesse est inscrit dans la charité. Et il est une lumière dans la fine pointe de l'âme. Oui, c'est les rapports de l'intelligence et de la volonté. Et les rapports de l'intelligence et de la volonté, c'est d'une souplesse extraordinaire, parce que les deux sont toujours liés ensemble. Je ne peux pas faire un acte d'intelligence sans que la volonté soit là. Je ne peux pas faire un acte de volonté sans que l'intelligence soit là. Donc faisons attention. C'est une distinction que nous faisons dans une analyse, mais dans l'ordre pratique. Mais c'est évident que pour être intelligent, mais il faut être appliqué. Et je pénètre dans la mesure où j'aime. Mon intelligence... et perspicace dans la mesure elle aime. Plus on aime, plus on devient perspicace. Ça c'est sûr, on devient intelligent dans la mesure où on aime. Et donc l'amour est là pour pousser mon intelligence, pour l'exiger d'aller le plus loin possible. Et en même temps, plus mon regard est perspicace, plus je désire aimer. Oui. Donc c'est toujours impliqué l'un dans l'autre. Mais je peux discerner, analyser ces différents moments. Et au fond, c'est ce que fait le théologien.
Ça
ne
peut pas être systématique.
Quoi ?
Il
ne
faut pas être systématique.
Il ne faut pas être systématique, il faut être analogique. C'est l'analogie. Et alors là, systématique, c'est une voque, et analogique, c'est justement qualitatif, les rapports différents. C'est les causalités qui jouent différemment. Et c'est vrai, c'est assez extraordinaire comme... Quand on pousse cette analyse, c'est là où on voit que très bien qu'un esprit dialectique ne pourra absolument pas analyser ça. On aurait une opposition entre intelligence et amour, alors par l'opposition, mais alors l'unité. Il n'y a plus d'unité. L'unité dans la synthèse. Et c'est la synthèse, alors qu'il n'y a plus qu'une confusion à tout. Alors que là, il n'y a pas de confusion, ça reste. Dieu ennoblit notre intelligence, il ennoblit notre cœur. La grâce ne supprime pas notre nature humaine. C'est nous qui aimons notre personne. Et nous aimons avec l'amour de l'Esprit Saint. et nous regardons avec la lumière du Verbe. C'est merveilleux d'être assumé le prix emporté par eux. Mais c'est nous. Alors, voyons les objections. Il semble que la sagesse ne soit pas pratique, mais seulement spéculative. En effet, le don de sagesse dépasse en excellence la sagesse considérée comme vertu intellectuelle. Or, comme vertu intellectuelle, la sagesse est uniquement spéculative. À plus forte raison que don de sagesse, est-il d'ordre spéculatif et non d'ordre pratique ? C'est très joli comme objection, tu vois ? C'est bien, a fortiori. Alors, plus une vertu est élevée, plus son domaine est étendu. Saint Thomas répond calmement. Quanto aliqua virtus et alcior, tanto ad plura se extendit. C'est l'horizon. Plus vous vous élevez, plus votre horizon est vaste. Alors, plus une vertu est élevée, plus elle s'étend. Ça, c'est vrai. Pourquoi, du fait que la sagesse, c'est pourquoi, du fait que la sagesse comme don est plus excellente que la sagesse comme vertu intellectuelle, puisqu'elle atteint Dieu de beaucoup plus près en raison de l'union qui s'établit entre l'âme et lui, elle a le pouvoir de ne pas diriger seulement la contemplation, mais aussi l'action. Alors faisons attention, médecin. Dès qu'on est truchant, on sent que c'est pas tout à fait ça. C'est pas la... Vous voyez, regardez le latin. Unionem animé ad ipsum, abet quod non solum dirigat in contemplatione, sed etiam in actione. Alors, dirigat in contemplatione, faisons attention. Hein. Elle a le pouvoir de diriger. J'aime pas du tout le pouvoir de diriger. Elle n'a aucun pouvoir de diriger. Ce n'est pas la même chose de dire qu'elle dirige la contemplation que le pouvoir de diriger. Vous voyez, c'est ça, ça trahit. Dire que la sagesse a le pouvoir de diriger, ça veut dire qu'elle est source propre. Vous voyez ? Tandis qu'elle dirige, c'est l'orientation. Ce n'est pas la même chose du tout. Elle, le propre de l'habitude de sagesse, hein, et ça c'est important à voir, le propre de l'habitude de sagesse, c'est de saisir tout notre cœur et notre intelligence vers Dieu. Donc, elle l'oriente. Dirigat, comme dans le sens de oriente, pas de pouvoir de diriger. Le pouvoir de diriger, c'est pour ça qu'elle domine. Que l'habitude de sagesse domine la contemplation, mais pas du tout. L'habitude de sagesse ne domine pas la contemplation, mais elle oriente. Elle mobilise toutes nos forces pour les orienter vers Dieu. C'est ça que fait l'habitude de sagesse. Alors elle donne une intensité d'amour et de lumière. Je crois que c'est ça qu'il faut comprendre comme habitude de sagesse. Quoi ? La contemplation. La vraie contemplation infuse du don de sagesse. C'est toujours sous la mouvance du Saint-Esprit, comme tous les dons. Donc on est mu. Si on est mu, on n'a pas le pouvoir de diriger. Mais si on est mu, on peut orienter. C'est ça simplement que je veux dire. Vous voyez, je crois que c'est... On le sent, ça. Vous voyez, c'est que tous les dons nous font être mus par l'Esprit Saint. On est mu par l'Esprit Saint par les dons. Donc, quand on contemple, on est mu par l'Esprit Saint. On est sous la mouvance de l'Esprit Saint. Si on est sous la mouvance de l'Esprit Saint... L'habitus de sagesse ne peut pas avoir pouvoir de diriger. Elle ne peut qu'orienter. Ça oui, elle oriente. Et en dernier lieu, c'est l'Esprit Saint qui oriente. Mais elle oriente quand même notre âme. Elle mobilise toutes nos forces. C'est pour ça que j'aime mieux dire ça. Vous voyez ? Et le dirigat, il faut faire attention. Donc il faut prendre comme une orientation interne. Tandis que pouvoir... Ça me semble pas exact. Deuxième objection. L'intelligence pratique concerne l'activité, donc le contingent. La sagesse, elle, regarde les choses divines qui sont éternelles et nécessaires. Par conséquent, la sagesse ne peut pas être pratique. Réponse, c'est facile. Les choses divines considérées en elles-mêmes sont nécessaires et éternelles. Elles règlent cependant les choses contingentes qui sont du domaine des actes humains. Tamen sunt regulae contingentium que humanis actibus subsunt. Donc elle est là pour régler, diriger les choses contingentes. Troisième objection. Selon saint Grégoire, dans la contemplation, on cherche le principe, c'est-à-dire Dieu. Dans l'action, au contraire, on cède au poids de la nécessité. Or, à la sagesse appartient la vue des choses divines, qui n'est pas un travail pénible, comme le dit le livre de la sagesse. Sa société ne cause point d'amertume, ni son commerce de fatigue. La sagesse est donc uniquement contemplative. Elle n'est ni pratique ni active. Réponse de saint Thomas. Il faut d'abord considérer une chose en elle-même, avant de la comparer à une autre. C'est pourquoi à la sagesse appartient tout d'abord la contemplation des choses divines, c'est-à-dire la vue du principe. Unde sapientiam per prius pertinent contemplatio divinorum, quies visio principi, la vision de ce qui est à la racine de tout. Ultérieurement, il lui appartient de diriger les actes humains selon des raisons humaines. Donc, et posterius, et en second lieu, dirigere actus humanos, secundum rationes divinas, selon les vues mêmes de Dieu, selon le regard même de Dieu. La sagesse nous fait entrer dans le regard de Dieu, et nous fait diriger toutes nos activités dans le regard de Dieu. Mais la sagesse n'apporte aucune amertume ni fatigue aux actes humains qu'elle dirige. À cause d'elle, au contraire, l'amertume se tourne plutôt en douceur et la fatigue en repos. C'est magnifique. Elle apporte cette douceur divine. Et qui fait que même à l'intérieur de l'action, l'action devient suave parce qu'elle est portée par la contemplation. C'est ce qu'il faudrait rappeler aux actifs, à ceux qui ne jurent que par les méthodes. Et montrer que c'est la sagesse qui doit transformer leur fatigue en repos et leur amertume en douceur. Vous voyez, c'est très beau, parce que ça montre bien que l'action, quand elle est divinisée par le don de sagesse, elle est toute changée. Là, vous voyez, pour toute la vie commune, hein. Toute la vie commune doit être dans le rayonnement du don de sagesse pour des contemplatifs. Et elle est dans le rayonnement du don de sagesse, et alors à ce moment-là, la vie commune change ses amertumes, n'est-ce pas, en douceur, et elle s'affatigue en délectation, en repos. C'est merveilleux, ça. Alors ne dites pas, si la vie commune me coûte un tout petit peu, ça prouve que je ne suis pas assez contemplatif. Il ne faut pas dire ça. Ce n'est pas toujours vrai. Parce que le don de sagesse ne fait pas ça immédiatement. Hein? Ce serait trop beau, si vous voulez. Après vraiment une envolée surnaturelle, alors tout est changé. Momentanément. Tout est changé momentanément. C'est vrai, ça devient laborieux, difficile. Il y a des luttes. C'est sûr, ça. Ça ne se fait pas. Le levain ne transforme pas immédiatement la pâte. Alors, il ne faut pas dire, parce que la pâte n'est pas changée, le levain n'existe pas. Ça serait très mauvais. Ça, c'est la tentation du démon. Mais c'est de changer, parce qu'il n'y a pas un ordre nécessaire entre les deux. Et c'est pour ça que saint Thomas met, hein, vous voyez bien, il met avec beaucoup de précision, il met « prius et posterius ». Prius et posterius. Il y a un ordre entre les deux, mais il n'y a pas une conséquence nécessaire. Et c'est pour ça qu'il met prius et posterius, pour montrer qu'il y a un ordre. Mais il n'y a pas de conséquence nécessaire. Il ne faudrait pas dire, dans la mesure où je contemple, la vie commune deviendra délectable. serait trop beau. On peut pas dire ça. On peut dire que la contemplation divine, la vraie contemplation divine du don de sagesse, va me permettre de supporter la vie commune. Hein? Et de faire que certaines amertumes se changent en joie et que certaines fatigues se changent en repos. Ça, c'est vrai. Et c'est très vrai, ça. C'est un fait constant pour ceux pour qui la vie commune est lourde. Il y a certains moments, elle peut être lourde. Vous savez, il suffit très peu de choses pour que la vie commune devienne lourde. Il suffit qu'on soit soi-même un peu plus fatigué et qu'on soit à côté de quelqu'un qui est fatigué. Alors à ce moment-là, les deux fatigues s'additionnent. Et c'est quantitatif. Alors ça devient très très lourd. Et qu'on soit auprès de quelqu'un qui est responsable auprès de nous et qui soit fatigué. Alors ça devient encore plus fatigant. N'est-ce pas ? Et alors à ce moment-là, ça devient difficile. Alors à ce moment-là, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est dès qu'on le peut, on demande au Saint-Esprit de nous donner les ailes de l'aigle. Alors à ce moment-là, on respire, puis on retire. On peut revenir. Ça, c'est, et le don de sagesse, vous voyez, des deux côtés. La sagesse peut-elle exister sans la grâce, en compagnie du péché mortel? Vous voyez bien, ça, c'est facile à répondre. Hein, il y a cette parole du livre de la sagesse. La sagesse n'entrera pas dans une âme malveillante. Et elle n'habitera pas dans un corps soumis au péché. La sagesse, don du Saint-Esprit, permet de juger correctement les choses divines et les autres choses à partir des règles divines. Et cela en vertu d'une certaine connaturalité ou union qu'elle possède avec les choses divines. Ce qui n'a lieu que par la charité, on l'a vu. C'est pourquoi la sagesse dont nous parlons présuppose la charité. Et comme la charité ne peut pas exister en même temps que le péché mortel, il en est de même pour la sagesse dont nous parlons. Ça, c'est facile à comprendre. Tout repose sur la charité. Tout repose sur la charité. C'est à partir de la charité que nous devons comprendre les dons du Saint-Esprit. Et les dons du Saint-Esprit sont le prolongement de la charité. Alors évidemment, si la charité n'existe plus, il n'y a plus de dons du Saint-Esprit. Le péché véniel ne supprime pas la charité. C'est un petit coup de frein, c'est la petite chose qui arrête, vous voyez, qui fait arrête, vous voyez, qui fait que c'est plus, ça grince un peu. Quoi. Bon, je comprends, heureusement. Le juste pêche 7 fois par jour et la sagesse demeure. C'est vrai, c'est toutes les petites bêtises. La sagesse ne supprime pas nos petites bêtises. Hein. C'est la sagesse don du Saint-Esprit qui est la sagesse des tout petits enfants, des tout petits. C'est pas la sagesse des sages de l'Antiquité. Alors à ce moment-là, les sages de l'Antiquité ne pouvaient plus faire aucune bêtise parce qu'ils étaient l'exemple. Hein. Alors ils étaient des sages. On dit qu'on devient sage d'une façon, vous voyez, toute différente. C'est la sagesse des petits. Je passe tout de suite à l'article suivant, je crois. Parce que les objections ici sont simples, il n'y a pas de grosses difficultés. Article 5. La sagesse est-elle chez tous ceux qui sont en état de grâce? Vous voyez, tout de suite, ça vient de compléter. C'est déjà ce qu'on a déjà vu, ça. Celui qui est sans péché mortel est aimé de Dieu. Ayant la charité, il aime Dieu. Et Dieu aime ce qu'il aime. Or, d'après le livre de la sagesse, Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Donc, en tous ceux qui sont en état de grâce et qui sont sans péché mortel, réside la sagesse. Un petit raisonnement très très joli. Hein, a fortiori, pour nous montrer. C'est le livre de la proverbe, du livre du proverbe. Neminem diligi Deus nisi eum cum sapientia inhabitat. Celui qui habite avec la sagesse. La sagesse dont nous parlons comporte une certaine rectitude du jugement en ce qui concerne les choses divines, à examiner et à consulter. À ce double point de vue, il y a des degrés différents de sagesse selon l'union aux choses divines. Ainsi en est-il qui n'ont en lot en fait de rectitude de jugement, tant dans la contemplation des choses divines que dans l'orientation des choses humaines selon la règle divine, que ce qui est nécessaire au salut. Cette sagesse ne manque à personne qui soit par la grâce sans péché mortel. Car s'il est vrai que la nature ne présente aucune déficience en ce qui est nécessaire, c'est encore beaucoup plus vrai pour la grâce. C'est pourquoi, comme le dit saint Jean, l'onction du Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. C'est une très belle exégèse de cette parole. Nous avons en nous le don de sagesse qui nous permet de voir ce que nous devons faire. Avoir un regard suffisamment divin pour savoir ce que nous avons à faire. Mais il en est aussi qui reçoivent le don de sagesse à un degré plus éminent, selon un grade plus élevé. D'abord, pour la contemplation des choses divines, dans la mesure où ils pénètrent les mystères les plus profonds, où ils peuvent les manifester aux autres. Et aussi pour la direction des choses humaines selon les règles divines, dans la mesure où ils sont capables non seulement de se gouverner eux-mêmes en les suivant, mais encore de gouverner les autres. Ce degré de sagesse n'est pas commun à tous ceux qui sont en état de grâce. Il est du domaine des grâces gratuites que le Saint-Esprit distribue comme il veut. Selon cette parole de saint Paul, à l'un, c'est une parole de sagesse qui est donnée par l'Esprit-Saint. Vous voyez, il faut bien faire ici. Ce n'est pas très très net hein, comme article. Hein. Ce n'est pas très net. Il y a des charismes qui viennent là-dedans comme donner un grade plus éminent de la vie de sagesse. Si vous regardez tant plus loin, c'est assez curieux. Pourrait critiquer la saint Thomas. Saint Thomas donne un grade plus élevé, il donne les dons. Alors les dons ne donnent pas un grade plus élevé des vertus, des dons du Saint-Esprit. Alors il faut comprendre ce que nous dit saint Thomas ici. Et je crois que c'est important à bien saisir, parce que c'est intéressant comme chose. Hein. On dirait aujourd'hui, vous voyez, dans un langage différent de celui de saint Thomas, c'est les dons qui nous sont donnés pour remplir la tâche que nous avons à remplir. Et c'est là où intervient les charismes. Alors, je crois qu'on peut dire ceci. Saint Thomas nous dit que le don de sagesse est donné à tous ceux qui sont dans l'état de grâce, en vue de voir ce qui est nécessaire à notre salut. Ce qui est nécessaire à notre salut. C'est donné à tous selon qui est nécessaire à notre salut. Alors voyez, c'est très important. Si Dieu vous donne une vocation contemplative, il vous donne donc un don de sagesse plus éminent pour vivre la vie contemplative. Parce que c'est nécessaire à votre salut. Si vous êtes entré dans... Si Dieu vous a fait entrer dans une communauté contemplative, c'est pour vous faire vivre la vie contemplative. Autrement, je ne dirais plus. Donc, c'est selon la loi normale de chacun là où il est situé. Et le don de sagesse est donné comme nécessité de salut. Deuxièmement, saint Thomas dit qu'il y a un degré plus élevé. Alcior gradus. Le don de sagesse a un degré plus éminent. D'abord pour la contemplation des choses divines dans la mesure où il pénètre les mystères les plus profonds où ils peuvent les manifester aux autres. Alors, vous voyez, il y a deux choses. Donc, sagesse donnée selon un grade plus éminent, une intensité plus grande, pour une contemplation. Et pour la manifestation cette contemplation. Alors, c'est là où il faut comprendre. Il y a les deux. Il y a la contemplation et la manifestation de cette contemplation. Pour manifester la contemplation, il y a un charisme. Sermo sapientiae. Et le sermo sapientiae, et c'est pour manifester cette contemplation. C'est pour la communication de cette contemplation. Et alors, il y a le sermo sapientiae. Donc, il faut bien voir. Hein. Et alors, saint Thomas dit, également pour la direction. La contemplation et la direction. La direction des âmes, de ceux qui nous sont confiés. Et alors là, il y a aussi un charisme particulier dans la ligne du don de sagesse pour discerner l'action de l'Esprit Saint. Pour discerner l'action de l'Esprit Saint. Donc vous voyez, on comprend bien comment le don de sagesse, et saint Thomas souligne simplement deux aspects. Le don de sagesse est donné à tous pour l'unicité de salut. Absolument. Donc à tout chrétien est appelé à un certain minimum de contemplation. Puisque le don de sagesse est donné à tous. C'est normal, on ne peut pas se préparer au retour du Christ sans un certain regard contemplatif. On ne peut pas vivre sa vie chrétienne sans un regard contemplatif. Donc c'est donné à tous les chrétiens. Tous les chrétiens ont le don de sagesse. Et comme le don de sagesse habite tous contemplativus, c'est donné à tous les chrétiens. Et donc on peut dire et on doit dire que tous les chrétiens doivent avoir le sens de la contemplation. Le sens de la contemplation, c'est une nécessité de salut. Je crois qu'on ne peut pas faire son salut sans le sens de la contemplation. Et ceux qui sont des actifs purs, bien, il faudra qu'au purgatoire, ils aient le sens de la contemplation. C'est impossible autrement. Parce qu'on ne peut pas entrer dans le ciel sans avoir le sens de la contemplation. C'est impossible. Alors, ça se fait après.
Il n'y a pas le contraire.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Les contemplatifs, purgatoire, on restera dans la contemplation.
On restera dans la contemplation. Alors, les contemplatifs purs, s'ils vont au purgatoire, c'est pour qu'ils n'ont pas été de purs contemplatifs. Parce que s'ils étaient de purs contemplatifs, ils entreraient tout de suite au ciel. Ils sont prêts pour le ciel, les contemplatifs. Là, c'est immédiatement. Alors, l'unicité de salut. Deuxièmement, les dons de sagesse est donné de façon plus éminente pour les contemplatifs. Ça, je crois. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut le traduire. C'est donné pour les contemplatifs. Ceux qui, dans leur vocation, sont appelés à la contemplation, le don de sagesse est donné de façon plus éminente. Et le don de sagesse est donné de façon, alors, avec le sermo sapientiae, pour manifester cette contemplation. Traduire la contemplation aux autres. Alors, il faut le sermo sapientiae. Et la même chose, le don de sagesse est donné de façon plus éminente pour ceux qui ont une charge de directeur. Ceux qui sont responsables pour diriger les autres, les éclairer, les aider. Oui. Alors à ce moment-là, le don de sagesse est donné de façon plus éminente pour les diriger. Vous avez les deux aspects de la contemplation. Hein, les deux aspects. La contemplation, je veux dire, les deux aspects de la... Vous voyez, vous retrouvez les deux aspects du don de sagesse. Le don de sagesse est premièrement contemplatif, et le don de sagesse nous fait discerner l'action d'Esprit Saint au point de vue de nos actions. Et donc l'aspect de la contemplation manifestée aux autres, l'aspect de la direction pour aider les autres.
Par rapport à la question des degrés, là, ça ne rejoint pas un peu ce que saint Thomas vit dans les états de vie. Donc finalement, il parle un peu plus en fonction de sa propre vocation, les degrés.
Oui, c'est ça. C'est les états de vie, et ici, il prend les degrés. Pourquoi ? Parce qu'on est en face de quelque chose de plus personnel.
Oui. Finalement, il parle un peu en fonction de ce qu'il vit.
uniquement la limite, c'est supérieur à l'autre.
Mais c'est pas supérieur, parce que c'est la manifestation. C'est le charisme. C'est là où c'est très très joli, vous voyez ? Il montre bien que la manifestation, vous voyez, c'est du côté, c'est le charisme qui vient permettre la manifestation. C'est très vrai, ça. Et il parle de le don de sagesse n'est pas plus élevé si vous prêchez. Mais pour prêcher, il faut le sermo sapientiae. Mais il n'est pas plus élevé à cause de ça. Puisque le don de sagesse n'est pas finalisé par la prédication. Il est finalisé par la contemplation. et la contemplation est en elle-même silencieuse. Mais il faut le sermo sapientiae pour le communiquer. Oui. Autrement dit, et c'est pour ça que c'est intéressant de voir ça ici. Vous voyez, c'est intéressant de voir le lien entre le don et le charisme. Et le charisme arrive pour la manifestation, par rapport aux autres. Parce que l'habitus de sagesse est un habitus contemplatif. Et la contemplation regarde Dieu. Et se finalise par Dieu, par ce regard. Donc la contemplation est finalisée par la contemplation, elle n'est pas finalisée par la vie apostolique. Oui, il faut faire attention. Vous allez voir juste après, du reste, la première objection. C'est une meilleure chose de posséder la sagesse que d'entendre la voix de la sagesse. Or, il n'appartient qu'au parfait d'écouter la sagesse. Selon cette parole de saint Paul, nous parlons sagesse parmi les parfaits. Ainsi donc, comme ceux qui sont en état de grâce ne sont pas tous parfaits, il semble beaucoup moins vrai encore de dire que tous ceux qui sont en état de grâce possèdent la sagesse. L'apôtre parle ici de la sagesse qui s'étend au mystère caché des choses divines, dont il l'explique au même endroit. Ce dont nous parlons, c'est d'une sagesse divine, mystérieuse et demeurée cachée. Donc c'est une pénétration plus avant dans les mystères de Dieu. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Alors, seconde objection. Il appartient au sage d'ordonner, comme dit le philosophe, au début des métaphysiques. Et Saint Jacques, c'est extraordinaire, le philosophe et Saint Jacques vont se s'unir. Et Saint Jacques nous dit que le sage est celui qui juge sans dissimulation. Il n'appartient pas à tous ceux qui sont en état de grâce de juger les autres ou de leur donner des ordres, mais seulement au prélat. Ceux qui sont en état de grâce ne possèdent donc pas tous la sagesse. Hein? Quoi qu'il n'arrive qu'au seul prélat de donner des ordres aux autres hommes et les juger, il appartient cependant à tout homme d'ordonner ses propres actes et de porter un jugement sur eux. Chacun gouverne un petit univers, et c'est suffisant, sans être prélat. Oui. On en a assez. Alors, déjà, gouverner son petit univers. Et gouverner ce petit univers, c'est le don de sagesse qui nous permet de gouverner ce petit univers et de l'ordonner vers Dieu. La sagesse s'oppose à la sottise, comme le dit saint Grégoire. Or, il y en a beaucoup qui sont en état de grâce et qui sont sots par nature. Que dirait saint Thomas aujourd'hui ? Le cas est net, par exemple pour ceux qui, lors de leur baptême, sont déjà dans un état dément, ou pour ceux qui ensuite, sans commettre de péché, deviennent fous. Ainsi donc, ça c'est tout à fait bien. Ainsi donc, la sagesse n'existe pas forcément chez tous ceux qui sont en état de grâce. Alors ça, c'est tout à fait la sottise et la sagesse, ce dialogue entre les deux. Et quelquefois dans le même individu, vous voyez, c'est ça qui est remarquable. Ceux qui sont baptisés et qui n'ont pas la raison, comme c'est le cas pour les enfants, ont cependant l'habitus de sagesse, selon qu'elle est un don du Saint-Esprit. Et ils n'en possèdent pas encore l'exercice, à cause de l'obstacle corporel qui empêche en eux l'usage de la raison. Saint Thomas répond par les enfants pour ne pas répondre pour les autres. C'est très joli. Une fois qu'elle a répondu pour les enfants, elle a répondu pour tous les autres. Parce qu'il y en a qui restent de grands enfants tout le temps et qui ne peuvent pas exercer leur intelligence. Alors, ne pouvant pas exercer leur intelligence, ils ont quand même l'habitude de sagesse. Et il pourra se faire qu'à travers certains gestes, l'habitude de sagesse s'exprimera pour montrer le hiatus qui existe entre leur intelligence qui n'est pas développée du tout et le don de sagesse. Ça arrive chez des êtres qui sont dans des handicapés, qui n'arrivent pas, qui n'ont pas développé du tout leur intelligence. et qui pourtant ont un grand amour de Dieu. Et alors ils pourront exprimer, et on pourra le comprendre par des gestes ou des attitudes, qu'il y a quelque chose de très très profond qui provient de l'habitude de sagesse. Et de l'exercice de l'habitude de sagesse. Parce qu'il faut un minimum très très peu d'intelligence pour exercer la foi. Très très peu. Très très peu d'intelligence pour exercer l'amour. On peut être très handicapé au point de vue de l'exercice de son intelligence, et cependant avoir une grande foi et un grand amour à l'égard de Dieu et à l'égard du prochain. Et donc, un habitus de sagesse qui est très grand, très profond, alors qui ne saura pas s'exprimer, qui ne pourra pas se dire, ou qui se dira de façon très maladroite, mais qui sera là présent. Et on le sentira, on le devinera. C'est le fait des handicapés ou de certains qui ne peuvent pas exprimer, qui sont dans une espèce de demi-coma. Je me souviens, c'est une petite fille comme ça, c'était tragique du reste, elle est morte maintenant. C'est absolument tragique cette chose. Elle s'amusait. Elle était rentrée auprès de sa mère et elle avait dit à sa mère qu'elle avait une peur énorme de se descendre comme ça. Alors sa mère se dit, mais tu as peur de ça? Elle avait 6 ans. Tu as peur de ça? C'est invraisemblable. Le lendemain, la petite est partie toute seule pour faire la descente. Et alors elle est tombée. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? Je n'en sais rien. Médicalement, on m'a dit qu'il y avait la colonne vertébrale qui était cassée. Elle est entrée dans le coma. Et elle a vécu des années dans le coma. Et cette petite, moi je vais la voir de temps en temps, c'était très net que quand on lui parlait de Dieu, elle comprenait. Il y avait des petits gestes de rien du tout, il y avait un regard qui changeait complètement à ce moment-là, qui était tout à fait différent, mais elle n'exprimait rien du tout. C'est comme ça que j'ai pu lui donner la Sainte Communion. Elle n'avait pas fait sa première communion. Et elle avait sûrement une vie. On sentait. Mais il y a une espèce de développement de la grâce qui peut se faire au-delà de ce qu'on peut représenter un développement psychologique. Et c'est là le très grand mystère. Hein. Ça, c'est, je vous dis, l'Esprit Saint, c'est comme une taupe. Hein. Alors là, il l'est tout à fait. Il agit en taupe. Hein. Et là, on s'aperçoit par des petits signes de rien du tout qu'il y a quelque chose de tout à fait différent. La grâce est au-delà, c'est ce qui est dit dans le prologue de Saint Jean, ceux qui sont nés de Dieu, ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté humaine. Il n'y a pas une harmonie entre les deux, entre le développement psychologique, entre le développement humain, et puis le développement divin. Et c'est vrai pour le don de sagesse. Alors c'est particulièrement sensible pour le don de sagesse. Puisque le don de sagesse, justement, on dira c'est l'intelligence, c'est l'amour, c'est l'intelligence dans l'amour. Alors il semblerait que non, il suffit de très peu de développement de l'intelligence pour que de fait la grâce puisse croître et par le fait même le don d'intelligence. Il faut s'arrêter maintenant, c'est l'heure. Il reste la béatitude des pacifiques, mais on le verra.